ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un cahoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Valérie Ayestaraï qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur avec un avant-goût d'été cette semaine. 30 degrés à Biscarrosse, 26 à Lyon, 27 à Strasbourg. Et un peu plus au nord, une banquise arctique version allégée qui affichait en mars 1 million de kilomètres carrés en dessous de sa taille de forme. Alors un régime minceur ininterrompu depuis au moins une trentaine d'années. Ce qui est un mauvais plan pour les ours blancs, mais pas seulement. Car comme chacun ne le sait pas forcément, petite banquise égale grosse chute de neige. Du moins, c'est la théorie de Vladimir Petukhov de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat en Allemagne. Et en novembre dernier, par exemple, la banquise arctique affichait un déficit de 12%. Alors ça, c'est un chiffre à vous attirer les foudres de la Banque Centrale Européenne, du FMI et des agences de notation réunies. Bon, sauf que la superficie de la banquise en hiver n'intéresse absolument pas le monde financier. L'hiver dernier, donc, la mer de Barents, privée de son manteau de glace, a cédé sa chaleur à l'atmosphère. Et selon Petukhov, ça a suffisamment perturbé la machine climatique de la région pour expliquer la vague de froid. Souvenez-vous, oui, on est en chemisette, mais donc du mois de décembre. Donc avis aux vendeurs de chasse-neige. Pour les glaçons dans le Rhum, en revanche, pas de souci, car le Groenland continue de débiter des tranches de glaciers dans l'océan à un rythme record. D'où l'idée de l'ingénieur Georges Mougin d'acheminer des icebergs jusqu'aux pays victimes de sécheresse. Les Canaries, par exemple, où on espère voir débarquer la première montagne de glace en 2012. Vive la fuite en avant. Alors, rapport ou pas avec nos températures estivales, Hollande, Borloo et Hulot, ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin on se bouscule un petit peu au portillon des candidatures à la présidentielle. Et plutôt que de ressortir le pacte écologique de 2007, dont l'efficacité reste à démontrer, eh bien moi je vous propose d'instaurer, tenez, un petit brevet des présidents qui serait l'occasion de garantir un socle de compétences communs à tous les candidats. Alors, prenez vos stylos, on y va. Première question, l'archipel du Japon est situé, réponse A, dans l'hémisphère sud, réponse B, dans l'hémisphère nord, réponse C, ni l'un ni l'autre. Deuxième question, la couche d'ozone protège les habitants de notre petite planète contre, réponse A, l'effet de serre, réponse B, la tentation de Venise, réponse C, les ultraviolets. Troisième question, quel est l'auteur de la célèbre réplique « Tu me fonds le cœur ?» Je dis bien « Tu me fends le cœur ». Réponse A, César, patron du bar de la marine. Réponse B, José, producteur d'artichauts bio dans le Larzac. Réponse C, un ingénieur de Fukushima qui a préféré garder l'anonymat. Alors on continue, vous avez aussi le projet de zone d'action prioritaire pour l'air, dite ZAPA, et qui consiste à interdire l'accès de certaines zones urbaines, réponse A aux piétons, réponse B aux ours des Pyrénées, réponse C aux vieux diesels. Et puis une petite dernière quand même pour terminer ce test, hein. Les gaz de schiste sont, réponse A, les symptômes de dérèglements intestinaux, réponse B, de dangereux hallucinogènes. Réponse B, réponse C, très bien là où ils sont. Allez, dans un an, je ramasse les copies. Alors au menu de cette émission, eh bien, une belle rencontre hein, entre Pierre Rabhi d'un côté et Jean-Marie Pelt de l'autre. Allez, une petite bouffée de Pierre Rabhi.
L'écologie, c'est l'enchantement. L'écologie, c'est la beauté. Et pourquoi nous sommes blessés quand on touche à un arbre inutilement, quand on pollue, etc. Nous ne sommes pas blessés seulement sur le fait que la phénoménologie, c'est de la chimie qu'on a mis dans le... Nous sommes blessés profondément parce qu'on porte atteinte à quelque chose qui est beau.
Deux humanistes donc rencontrés à Kerbastik dans un jardin de Bretagne. J'ai sauté sur l'occasion, ils étaient là réunis tous les deux. Profitons-en, il y aura aussi l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Et bien sûr, nous avons des disques. Allez, c'est parti.
Je tourne
ce que ça peut faire. Y'a pas grand chose à faire, non, pas grand chose à faire. Le jour je regarde et je pense à tout ce qu'on s'est dit. J'absorbe les odeurs d'essence et cet alcool de
extrait de la playlist, autrement dit de la sélection musicale de France Inter par Muriel Pérez. C'était Robin Leduc qui nous disait « Mais qu'est-ce que ça peut faire ?» Et extrait alors là de mon petit herbier de paysage. Ah, là on va partir, vous allez voir, en Bretagne. Vous imaginez, ah, tenez, un magnolia et juste à côté, un Jean-Marie Pelt.
Il est magnifique. Il a fleuri comme ça il y a 110 millions d'années. Ouais. Il y a 110 millions d'années qu'on le voit comme ça, le magnolia. Ce qui est frappant, c'est qu'il explose à une rapidité extraordinaire. En deux jours, ça y est, ouais. Tout est parti. Ça part très très tôt. C'est vraiment le premier arbre qui fleurit avant tout le reste. Bien que déjà ici en Bretagne, on commence à voir les arbres fruitiers fleurir.
Oui, on a vu des mimosas aussi en fleurs.
On a un décalage de plusieurs jours avec la Lorraine, 5-6 jours à mon avis.
Alors je crois que vous l'avez très bien compris, aujourd'hui, balade et reportage, non pas chez vous en Lorraine, cher Jean-Marie, non pas chez notre ami Pierre Rabhi aussi, parce que c'est une occasion incroyable de vous réunir tous les deux donc chez lui en Ardèche. Vous allez bien, Pierre ?
Oui, ça va, merci.
Voilà, vous voyez donc le printemps arrivé aussi avec beaucoup de plaisir, que ce soit en Ardèche ou ici.
Énormément, oui. L'hiver a été quand même un peu pénible.
Et nous sommes accueillis par Constance de Polignac, dans sa fondation, donc ici, à Kerbastik. Alors, quel est l'esprit des lieux ici ? Pourquoi vous soutenez, vous, cette fondation, et que vous apportez aussi, je dirais, vos conseils éclairés, sur quand même ce territoire qui fait plus de 100 hectares aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?
Ça commence d'abord par des personnes, des âmes, des consciences. Et nous sommes en connivence et en convergence. C'est surtout là-dessus que c'est fondé. Après, les lieux qu'on nous propose, il y en a des quantités. Mais il faut d'abord fonder les choses sur une connivence forte, sur des projets qui soient bien structurés. Et c'est donc d'abord une affaire de personnes.
Eh bien non, nous ne sommes pas dans le jardin de la Belle au bois dormant, mais dans un jardin quand même très beau. D'abord, le jardin principal, ça s'appelle le Morbihan, c'est pas mal quand même. Et puis, nous sommes dans le domaine de Kerbastik, donc non loin de Guidel. Marée descendante, celle du reflux, du jusant. Aujourd'hui, il faisait beau. Enfin, ce jour-là, il faisait beau. Nous sommes déjà dans la Bretagne intérieure, hein, autrement dit l'Argoate, celle des forêts, des landes. Les chênes étaient du haut de leurs 3 siècles d'âge, ce qui, pour eux, est à peine le moment de songer à leur retraite. Alors, ils tendaient leurs oreilles, ils tendaient leurs feuilles. Et oui, car il y a un peu plus de 2 semaines, à Lorient, pour nos amis de Cap-Lorient et de l'association Nature et Culture, et là, hommage soit rendu à un homme qui s'appelle Jean-Claude Pierre, parce qu'il a vraiment vraiment initié l'écologie en Bretagne avec quelques autres, eh bien nous sévissions sur le thème agriculture et alimentation de demain, vaste sujet comme dirait l'autre. Mais avant que le soleil ne jette ses derniers feux dans la bretonnante Atlantique, j'avais sous la main Pierre Rabhi, agroécologie humaniste, Jean-Marie Pelt, autre humaniste, occasion donc inestimable d'ouvrir le micro, dehors dans la douceur du printemps naissant, sous les auspices donc de Constance de Polignac, issue d'une très ancienne famille, ce qui n'empêche nullement d'être convaincu par l'écologie, hein, regardez le prince Charles. Et donc on y va, on se fait cette balade avec ces deux hommes. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire, vous madame? Quel sens avez-vous voulu donner donc à ce lieu?
Eh bien, lorsque on m'a demandé de prendre la présidence de cette fondation, cette maison était inoccupée pratiquement toute l'année, sauf 3 semaines pendant un festival. Et j'ai toujours beaucoup de mal à voir des lieux qui ne vivent pas. Pour le faire revivre, il fallait évidemment le rénover, il fallait restructurer le patrimoine pour le concentrer sur ce domaine. Et à mon avis, la seule chose, c'était de l'ouvrir au public dans un concept unique qui est art, nature et santé, puisque cette maison a un patrimoine artistique exceptionnel. Les plus grands artistes du 19e, 20e sont venus ici pendant 3-4 mois par an avec mon oncle et ma tante. Ils ont peint, ils ont chanté, ils ont composé. Enfin bon, la nature pour moi est évidemment essentiel.
Quand avez-vous été relié? Ça, c'est extrêmement important. Vous faites partie des personnes qui se sont toujours senties reliées à la nature.
Ah oui, totalement. Pour moi, ça a commencé en fait à 4 ans et demi lors d'une expérience que j'ai vécue complètement intérieurement, mais qui pour moi est devenue une évidence. C'était lumineux. Tout était relié. J'étais une mémoire, si vous voulez, de tout le cosmos, de tout l'univers, de tous les êtres vivants. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu simple. Et toutes les séparations, toutes les divisions, les analyses, etc., bon, qui ont engendré le progrès, c'est vrai, scientifique, me paraissaient une étape, mais en tout cas, pas un but en soi. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, tout de même, la division a des conséquences terribles. Donc mon but, si j'ose dire, en tout cas mon désir était toujours d'unifier. D'abord en dépolluant les terres, les nappes phréatiques, en assainissant tout ça, en faisant des cultures biologiques.
Oui, parce que les plus de 100 hectares là, qui nous environnent, c'est passé au bio. Quand même.
Tout est bio maintenant, oui. Et il n'y avait pas d'animaux, comme dans tout lieu un peu désaffecté, si j'ose dire. Donc on a remis des animaux. Les chevreuils sont revenus parce que les animaux ne sont pas idiots. Ils savent très bien quand, là où ils sont bien. Donc ils reviennent de plus en plus.
Alors nous avons une très brave aussi. On voit un cheval de trait. Donc c'est une bretonne parce que c'est une jument.
Ah oui, hein, oui. Ah, alors oui. Ça, c'est une acquisition, si j'ose dire, relativement récente, mais qui est vraiment pour moi très importante, oui. Puisque j'ai remis le potager en vigueur. Et donc elle va travailler au potager. Et ça fait d'ailleurs la région maintenant et le conseil général demandent justement comment on a fait ça, pourquoi on le fait, parce que maintenant les gens commencent à s'y mettre et ça devient un peu un lieu, enfin j'aime pas beaucoup le mot d'exemplaire, mais c'est vrai, un peu de témoin.
Jean-Marie, ça doit vous plaire parce que effectivement ici c'est un lieu d'exemplarité. C'est-à-dire que ça va devenir un écolieu. On essaie de trouver la cohérence, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Donc oui. C'est pour ça qu'on se sent bien aussi et qu'on se sent relié ici.
Oui, ce qui me frappe dans ce que vient de dire notre ami, c'est que cette idée de cohérence a été acquise à 4 ans et demi. Et bien moi c'était pareil. Et ce qu'on acquiert tôt est conservé toute la vie. Et quand c'est trop tard, on a du mal à reboucher les creux et les vides d'une enfance qui n'a pas été au contact avec et la nature et la spiritualité et les arts. Alors je dois dire aussi que je trouve très beau ce jardin à la française. La biodiversité, c'est un petit peu les plantes sauvages à la nature. Mais lorsqu'on trace et qu'on dessine un jardin, c'est un acte d'apprivoisement de la nature. Et avec la nature, on doit être des partenaires qui s'apprivoisent mutuellement et non pas des possesseurs et des dominateurs et des maîtres, comme avait dit Descartes, parce qu'on voit ô combien spectaculairement et dramatiquement que si on était maître de la nature, il ne se passerait pas au Japon ce qui s'y passe.
Oui. Pierre Rabhi, votre révélation personnelle de vous être senti relié à la nature, ça remonte à quand?
Il n'y a pas très très longtemps. Disons, moi, quand j'étais enfant, j'avais mes pièges, j'allais piéger les oiseaux pour les manger. J'étais un prédateur complètement inconscient. Et ensuite, comme vous le savez, j'ai fait ma petite insurrection par rapport à notre modèle de société, ça dans les années, fin des années 50, où j'ai fait un retour à la terre. J'ai été ouvrier agricole et mon patron m'obligeait à répandre des pesticides, etc. Puis jusqu'au moment où ça a été la grande révélation, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de profaner, je participe à cette profanation générale. On a vu des paysans, d'ailleurs j'avais un ami médecin qui lui-même militait contre les pesticides parce qu'il en avait marre de sauver des paysans qui étaient à l'article de la mort, qui avaient des cancers, qui avaient etc. etc. Et ensuite j'ai découvert l'agriculture écologique par un livre qui s'appelait « La fécondité de la terre » d'un certain Pfeiffer, qui était un disciple de Rudolf Steiner. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré en quelque sorte en écologie, au début peu consciente ou disons... factuel. Et puis petit à petit, dans l'évolution générale, je me suis rendu compte que l'écologie, ce n'était pas simplement ne pas agresser la nature, ça relevait de quelque chose de sacré, c'est-à-dire d'une posture intérieure qui a bien intégré le fait que tout est sacré et on n'a absolument pas compris que ce don est extraordinaire et que tout ce que nous savons faire, évidemment, c'est le profaner, le détruire. J'avais même un contentieux avec les religions, parce que les religions n'arrêtent pas de dire la création est œuvre divine. Je me suis dit, mais c'est eux qui devraient être les premiers écolos. Parce qu'au moins, ils proclament que c'est divin. Et je voyais la contradiction entre l'acceptation, disons, de cette gestion de la nature qui introduit sa profanation et sa destruction par rapport aux grandes proclamations concernant son caractère sacré. Alors tout ça a maturé en moi et j'ai lu et relis des choses. Et puis petit à petit, mon écologie... plutôt que de rester simplement factuel, a gagné le territoire, disons, de la conscience. Et à partir du moment où elle a gagné le territoire de la conscience, elle est allée plus loin vers le sacré. Et c'est pour ça que je suis parmi ceux qui disent qu'on ne peut pas se contenter simplement d'une écologie factuelle, matérialiste, et qui ne prend en compte que les éléments positifs ou tangibles, mais que ça doit résonner en nous, et que finalement l'espace de l'écologie, c'est l'univers tout entier. Parce qu'on a tendance à le réduire simplement à la biosphère, alors que c'est l'univers tout entier. Quand dans une soirée d'été, on regarde les étoiles, ces étoiles, elles sont accessibles à mon regard. Je suis conscient que notre Terre s'inscrit dans cette immensité et que l'écologie, c'est ça, c'est ciel, terre, etc.
Ça, c'est un point commun que vous avez tous les trois.
Tout à fait, tout à fait. C'est la même idée. C'est l'idée que tout se tient. C'est l'idée que notre petite personne est un microcosme qui est en relation avec tout le macrocosme, c'est-à-dire l'univers tout entier, et que ce qui est dérangé ici dérange là et inversement. Et c'est une idée qui était très présente au premier millénaire et au Moyen-Âge en particulier, à l'âge roman en particulier, où la voûte romane représentait la voûte céleste, qui nous protégeait et qui nous couvait en quelque sorte. Alors tout ça a évidemment été complètement oublié par l'esprit analytique qui vise à segmenter tout à l'infini et à faire des prouesses technologiques, sûrement, grâce à cette manière d'approcher les choses. Et aujourd'hui, il est urgentissime de refaire ces liens, de les ressentir, de les reconstruire et d'aller vers ce qu'on pourrait appeler tous les trois, je pense, une écologie spiritualiste, qui n'est pas une écologie matérialiste, c'est une écologie purement technicienne. Moi, je suis frappé quand j'entends des experts en matière de développement durable expliquer que ce sont des techniques, mais il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de sens. Et quand tout ça n'est pas là, la motivation profonde n'est pas là non plus, et ça ne marche pas. Donc, donner du sens et donner une élévation spirituelle à notre manière de voir ce changement qui est en cours, ça me paraît la priorité essentielle.
C'est au de mon amour, Denis Chessy.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine, where we can live
If you marry me, une belle maison à la fontaine, where we will live, you and me, oh Louise, oh, ma jolie Louise, tous les matins au soleil, I will work till work is done, tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone, and so is Louise. On Daddy-O, did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours, and I remember the days and the promises that we made.
C'est bien ça. On remerciera jamais assez Samuel Champlain un jour d'être parti de Brouage comme ça pour arriver au Québec. Je vous fais le raccourci. Et pour arriver donc à Daniel Lavoie qui chantait Jolie Louise, ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. On les retourne en Bretagne. Nous sommes avec Pierre Rabhi, nous sommes avec Jean-Marie Pelt, nous sommes avec Herbastik. Alors, Madame de Polignac, ce sens-là, on l'a compris, il vous habite réellement. Comment vous avez fait, quand même dans une Bretagne qui est quand même extrêmement productiviste, qui a été spécialisée, parce que c'était comme ça à la fin de la guerre, d'un côté avec de l'agriculture intensive, de l'élevage intensif, comment vous avez réussi à convaincre autour de vous qu'il fallait passer au bio? Parce que j'imagine bien qu'il y a quand même des réticences.
Ah bah, il a fallu beaucoup de constance, c'est le cas de le dire, et je crois que j'en ai. Donc j'ai persévéré, je me suis heurtée, c'est vrai, à la fois l'ignorance, l'inconscience, et puis bon voilà, je suis une femme, ça n'aide pas beaucoup non plus. Et à force de lutter, j'ai obtenu quelques petits résultats, puis à un moment donné, on se dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que Pierre et moi, nous avons fait connaissance, on a décidé qu'on allait voir nos lieux respectifs, et à un moment donné, j'ai eu un éclair de lucidité, et je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes maintenant. On va réunir des personnes influentes, etc. Et tu vas me donner la crédibilité qu'on ne veut pas m'accorder. Et à partir de ce moment-là, alors c'est vrai que ça allait avec un ensemble, si vous voulez, une conjonction générale où les esprits commençaient tout de même à bouger. Et donc peu à peu, ça s'est mis en route et maintenant ça devient tout de même un lieu, je crois, qui est apprécié et qui commence à être reconnu par beaucoup.
Marie, là nous sommes en train de parler au moment où le Japon est en immense souffrance.
Malheureusement, et à mon plus grand regret, ça n'a fait que confirmer ce que j'ai toujours pensé, c'est que le nucléaire, contrairement à cet énorme battage médiatico-politique qu'on fait à son sujet, n'est pas neutre et n'est pas dépourvu de risques. Alors ici, nous avons eu une catastrophe majeure. Tchernobyl, c'en était une autre, et il y en aura probablement d'autres, malgré les efforts éminemment respectables de nos ingénieurs qui mettent le paquet. Je crois qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est le nucléaire lui-même qui est un problème. Et c'est cette idée de générer une énergie qui, en amont, suppose des mines d'uranium où il n'est pas très agréable de travailler parce qu'il y a l'irradiation, où ensuite il y a les centrales avec les risques concernant la sûreté, c'est ce qu'on voit, où ensuite il y a les déchets radioactifs, où ensuite il y a le problème de l'eau qui ne sera peut-être pas disponible pour les centrales qui ne sont pas au bord de l'eau s'il y a du réchauffement climatique. Pour les centrales qui sont au bord de l'eau, il y aura la montée de la mer. Je veux dire, c'est quand même très très compliqué. Alors, moi je vois tourner dans le ciel, au gré de nos déplacements, les éoliennes, je pense aux hydroliennes qu'on pourrait mettre en mer, je pense au barrage de la Rance, je pense au solaire, je pense à la biomasse. Enfin, alors on dira, il n'y a pas de solution.
Il y a des solutions, mais simplement celles-là, elles seront matures à peu près dans 20 ans ou 25 ans ou 30 ans.
Il faut dire, on ira vers ces solutions, et en attendant, on gérera au mieux le nucléaire pour éviter qu'il y ait des catastrophes. Mais il ne faut pas dire que le nucléaire, c'est jusqu'à la fin des temps la source d'énergie majeure, celle sur laquelle on pourra compter les générations suivantes. Les générations suivantes vont devoir compter sur les déchets à gérer. Et je pense que les générations suivantes seront peu ou prou sorti du nucléaire, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.
Pierre Rabhi, sur ce thème.
C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire que ce que l'homme réalise, matérialise, il le conçoit en lui-même. Et je pense que nous sommes dans une vision démiurgique, c'est-à-dire l'homme démiurge. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on est dans le monde de l'enfer, c'est-à-dire du feu, de brûler, etc. C'est une civilisation terrible, parce que c'est une civilisation qui, pour la première fois, disons, s'éloigne des lois de la vie elle-même, telles que l'humain a eu cette relation à la vie depuis des millénaires. Et puis tout d'un coup, on tombe dans ce paradigme de la combustion énergétique, c'est-à-dire d'aller exhumer de la matière morte, et cette matière morte en faire du feu, et ce feu en faire donc de l'énergie. Et c'est à partir du feu, de l'énergie, etc., qu'on organise le monde actuel.
Donc là, vous parlez des énergies fossiles, hein, principalement, on va dire.
Alors, il y a les énergies possibles, mais il y a les représentations mentales de l'être humain. Il faut savoir que cet être humain a voulu dominer tout, se dire puissant, se dire qu'il y a un côté prométhéen. Et ce côté prométhéen fondamental, moi, la première fois que ma grand-mère, une dame sans prétention, toute simple, mais pleine d'intuition. Un jour, on allait acheter du pétrole par petite quantité, un quart de litre, pour éclairer un petit peu nos maisons, disons, sahariennes, primitives. Et quand ma grand-mère a reniflé la première fois le pétrole, elle a porté son voile sur son nez en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Elle a dit « C'est le pus de la terre. Il faut surtout le laisser là où il est, sinon il va nous poser bien des problèmes. » Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il peut y avoir une sorte d'intelligence fulgurante, c'est-à-dire une intelligence qui n'a rien à voir avec la déduction de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est connecté immédiatement à l'évidence sans que ça passe par aucune logique. C'est ce que ma grand-mère a eu.
Quel sens donner ? C'est vraiment une question qui revient très très souvent de la part de nos auditeurs. Les gens ont besoin de sens aujourd'hui. On en a parlé vraiment de nombreuses fois. On sait qu'on est sur un changement de civilisation extrêmement important, que nous avons une société qui est merveilleusement décadente, Jean-Marie Pelle. Donc, quel sens donner pour demain ? Et moi, je pense quand même aux gamins, aux jeunes qui nous écoutent, quoi, pour qui la vie n'est pas encore faite.
Oui, alors, pour venir ici, dans la voiture qui est mon bureau provisoire, mais utile, j'ai regardé de très près la vie de Mère Teresa, parce que je fais un bouquin, mais je n'avais pas pensé la prendre. Et une chose m'a énormément frappé, c'est qu'elle avait des doutes concernant la foi. Donc elle était comme d'innombrables gens qui ne sont pas sûrs de l'existence d'un Dieu, mais qui par contre sont tout à fait sûrs que quand on donne à sa vie le sens qui va vers les autres et tous les autres d'origine géographique, confessionnelle, diverse, ça donne un sens à la vie. Quand on passe de « moi-je » à « nous », ça donne un sens à la vie,
pour tout le monde.
C'est vrai que vous êtes très révolutionnaire en disant cela aujourd'hui.
Mais je le pense tout à fait.
Toute la publicité est axée sur le contraire, vous le savez.
Je suis tout à fait d'accord, mais tant pis pour la publicité.
Ah bon?
Oui, et ceci donne un sens à la vie. Et quand on dit aller vers les autres, ça peut être aussi l'ensemble du monde vivant, animal ou végétal. Et si nous nous rencontrons tous ensemble, parce que nous allons tous ensemble pour donner du sens à ces ensembles-là, alors la vie et la terre et l'humanité deviennent conviviales et joyeuses.
Alors Pierre Rabhi, vous travaillez actuellement aussi sur, on va dire, l'espèce de manifeste pour 2012. On va le dire, vous n'allez pas vous présenter cette fois-ci donc aux élections présidentielles, mais vous êtes en train de réfléchir. Sur quel pilier vous êtes en train de travailler ?
D'un côté, je suis très respectueux des politiques. Je ne désigne pas les individus. Mmh. J'ai respect total et je n'ai pas à juger les consciences. Simplement, on a l'impression que la politique s'acharne, fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui est déjà mort. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la société civile est devenue comme une sorte de laboratoire d'expérimentation d'intérêt général. Nous sommes ici sur le domaine de Carbastique qui est en train de... Alors, on pourrait faire la liste de toutes les initiatives que les consciences ont prises d'elles-mêmes, sans référence à quoi que ce soit, pour essayer d'inventer le futur. Et aujourd'hui, en domaine d'éducation, il y a des réflexions sur l'agriculture, l'éducation, sur la santé, sur tous les domaines qui constituent, en quelque sorte, le domaine de la vie sociale, sont aujourd'hui explorés par des gens qui veulent faire autrement que ce qui est conventionnel. Donc il y a en quelque sorte une potentialité du changement qui est énorme.
Donc ne pas refaire le film du XXe siècle avec une couche de peinture verte, on l'a bien compris. Oui. Ça c'est vraiment le premier pilier. Deuxième réflexion.
Alors ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai essayé de réfléchir à savoir. Bon, j'ajouterai que le monde tel qu'il est, c'est l'humanité qui l'a fait. Hein. Je veux dire, nous avons beaucoup de compétences, mais que nous sommes stupides. Parce que nos compétences, aussi élevées soient-elles, ne nous permettent pas de créer un monde vivable. Donc on est déjà dans une énorme défaillance. Alors je me suis dit, il y a quatre paramètres qui sont fondamentaux si nous voulons un changement. Premièrement, il faut vraiment, graduellement, tourner le dos à ce paradigme qui est vieillot, qui n'est pas du tout en phase avec la réalité, c'est-à-dire changer de paradigme. Et ce changement de paradigme doit se faire, disons, sur des réalités. Et c'est pour ça que j'avais proposé d'autres choses et que toutes ces initiatives sont intéressantes. Deuxième élément, j'arrive à 73 ans, je ne vais pas croire que le monde va changer si l'être humain ne change pas. Si l'être humain ne change pas, quelles que soient les conditions idéales qu'on va lui mettre, il va les pervertir, il va les changer. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en consultation et on n'est pas en changement personnel, c'est-à-dire en une espèce d'introspection qui lui donne à sa conscience et en son libre arbitre, lui permettent de faire les choix justes, la justice. Troisième paramètre, c'est la sobriété. Enfin, j'ai écrit un livre sur la sobriété heureuse. Quand je parle de sobriété, je ne suis pas là pour dire que c'est un concept ou un principe, puisque c'est quelque chose que nous nous sommes appliqués nous-mêmes en Ardèche. On nous disait, mais pourquoi vous ne montez pas votre troupeau, vous aurez plus, vous gagnerez plus d'argent, etc., etc. On a toujours refusé en disant non, on arrive à ce qui nous satisfait, qui nous permet d'élever nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus que ce qui est nécessaire ? Donc, c'est, quand je parle de sobriété,
parce
c'est
que le système est là pour attiser le désir, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Ben, le système, c'est-à-dire, il met toujours l'individu en frustration permanente.
C'est ça.
Et cette frustration permanente, c'est le moteur à partir duquel, évidemment, sur lequel s'appuie la publicité pour faire d'un être humain, même dans l'abondance, insatisfait dans l'abondance. Quand je vais dans les pays africains, je me dis, eux, ils auraient de quoi quand même demander. Et pourtant, on a le paradoxe, c'est qu'ils sont presque dans l'indigence, dans une espèce d'indigence et heureux. Donc, et on est tous en quête de ce bonheur.
Alors, autre point peut-être aussi.
Je cite souvent la petite anecdote avec un ami. On avait travaillé à couper du bois. Et puis, il y a un magnifique panorama à coucher de soleil avec des couleurs magnifiques. Il se trouve qu'il y avait la silhouette d'un arbre, d'un chêne sur ce magnifique panorama. Il y avait un silence extraordinaire. Enfin, on était reliés à l'éternité. Il me regarde en extase, en train d'admirer ça. Il s'approche de moi et je le prends par la main et je lui dis « Regarde !» Il me dit « Il y a au moins 10 terres.
» Oui, c'est ça.
Thank you.
Jean-Marie, pendant que le soleil se couche doucement, donc ici en Bretagne, à Kerbastik, face à ce magnolia resplendissant, peut-être quelques mots aussi sur ce thème-là, ce que vous verriez, ce que vous pouvez espérer aussi pour demain, parce qu'on en a besoin.
Ben moi, je suis un être souffrant parce que je vois la laideur partout. Et je vois que, malheureusement, très souvent, les élus n'ont pas le sens de la beauté, qu'on fait des choses très laides dans nos villes et dans nos campagnes. Et
pourtant, on a restauré les centres-villes, hein, quand même. Hein.
Beaucoup, oui. Et en bien, c'est un progrès.
Mais les entrées de ville, c'est une horreur. C'est,
oui. Tout à fait, c'est pas suffisant. Hier, j'étais faire une conférence sur mon dernier livre, L'évolution vue par l'Otanisme. J'ai expliqué la beauté de l'évolution. Pas seulement l'aspect factuel, comme le dit très justement notre ami Pierre, mais la beauté. Il y a un sens, puisqu'on parlait du sens tout à l'heure. Le sens, c'est que ça a donné un monde qui est beau et qui est en profonde connivence avec nous. Et à la sortie, j'ai une dame qui est venue me voir, ensuite deux, trois autres sont venus et m'ont dit « Mais on croyait que c'est un livre scientifique. » Mais j'ai dit « C'est un livre scientifique, mais la science n'est pas fâchée avec la beauté, simplement elle l'a oublié. »
Voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci donc à vous tous. C'est bien de vous croiser de temps en temps avec Pierre quand même. Hein, c'est
oui, pas, hein, oui, oui,
oui. Voilà. Relié.
Oui, voilà, oui, on est relié.
Et oui, c'est un joli mot celui-là, être relié. Voilà, donc fallait être disponible, fallait sauter sur l'occasion, entre guillemets, donc avec cette réunion un peu improvisée de ces hommes. Je vous signale que dans le numéro de La Vie sous la plume d'Olivier Noyas, c'est bien cette semaine, vous avez une interview de Jean-Marie Pelt sur le nucléaire. Les hommes se sont pris pour des dieux. Elle est jolie cette musique, un petit peu encore, avant l'actualité avec Nathalie Fontrelle, allez. Avec Valérie Ayestara, et c'est un film qui s'appelle Les Aiguilles Rouges, et donc il y avait cette très jolie valse qui a permis d'illustrer entre autres ce moment donc à Kerbastik. Et là nous allons changer, ça sent quoi? Ben, ça sent l'actu, mais auparavant, allez, cette petite chose.
Les oiseaux dans la charmille.
C'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Je ne m'en lasse pas,
mais
Denis.
Non, mais je sais, chère Nathalie, ça vous fait plaisir, ça vous fait en plus beaucoup de bien, parce que vous n'arrêtez pas en ce moment, nous le savons bien. Alors, chère Nathalie, pour cette actualité, c'était donc la semaine du développement durable ou soutenable, bon, qui est passée un peu inaperçue quand même, parce qu'on est une actualité assez dramatique, mais on va se faire un peu de positif, avec le portrait en fait d'une ferme bio, alors accrochée chez vous, qui est implanté au beau milieu de la Beauce, où en général vous avez zéro biodiversité, et pourtant championne de l'agriculture intensive.
Et oui, une ferme dont les bâtiments les plus anciens datent du XIIe siècle. C'est absolument merveilleux. Oui. Elle est située à Néron, dans l'Eure-et-Loire. Le grand-père a été précurseur dans la mécanisation de l'agriculture, dans l'usage des engrais, des pesticides. C'était même, Denis, une ferme modèle dans le genre. Mais son fils, lui, a tout rejeté. Il a été l'un des premiers à se lancer dans le bio et lorsqu'il a repris l'exploitation en 1978, François Lhôpitau reconnaît qu'on l'a pris un peu pour un fou.
Si, il y a eu beaucoup de moqueries, de réticences de la part à la fois des personnes de ma famille et puis surtout des voisins, des agriculteurs traditionnels. Et puis petit à petit, les gens sont aperçus que ce n'était pas si utopique, que ça correspondait à une réalité, à un besoin des citoyens, des consommateurs pour une agriculture plus qualiteuse, pour un environnement plus favorable.
On vit bien quand on est agriculteur bio?
Non, ça se saurait, tous les agriculteurs seraient en bio. Non, disons que la politique agricole commune, et spécifiquement la façon dont elle est appliquée en France, dont sont appliquées les directives européennes, n'est pas favorable à l'agriculture biologique. C'est plus la production est plus en dents de scie, c'est moins sûr, on est moins aidé au niveau des primes, de la PAC, etc. Donc c'est quand même plus aléatoire.
La ferme cultivait 180 hectares en bio, 100% bio, du blé, du maïs, de l'orge, on les entend aussi, de la volaille, avoine, pommes de terre, etc.
Mais quand vous dites, Nathalie, cultivait, c'est plus le cas aujourd'hui ou...
Eh bien non, la moitié de la ferme est repassée en agriculture intensive. Les banques, en fait, n'ont pas voulu financer le fils, Romain, qui vient de reprendre l'exploitation.
Lors de mon installation, donc en 2007, le contexte en agriculture biologique était pas très favorable, avec des prix qui n'étaient pas assez rémunérateurs. Et donc, si je restais dans le système 100% bio comme était mon père, les banques ne voulaient pas me suivre parce que c'était trop irrégulier au niveau des résultats d'une année sur l'autre, notamment dû aux rendements qui varient plus qu'en conventionnel. À l'avenir, là, si les cours en bio sont actuellement assez bons, je compte repasser tout en bio.
Quand vous traitez les champs là à côté, vous vous sentez comment ?
Ah, j'aime pas ça. Vraiment, ça c'est le truc. Quand je suis avec le pulvé, le pulvérisateur, mettre des produits chimiques et tout dans le sol, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'essaye d'en mettre le minimum. Je choisis des variétés qui sont plutôt résistantes. Ça reste de l'agriculture conventionnelle.
Vous voyez, ce qu'il faut dire, Nathalie, aux banquiers, c'est par exemple, j'ai du pétrole sous mon champ. Parce que là, ils n'ont pas été très courageux quand même, les banquiers.
Je vous confirme, Denis, que ce ne sont pas des philanthropes. Alors Françoise, la maman de Romain, elle est convaincue par le bio, mais elle observe tout de même avec bienveillance la démarche de son fils, même s'il a dû sacrifier une partie des terres.
C'est sûr que c'est dommage, mais il a vu les difficultés financières que son père a eues et il fait très attention de ne pas s'embarquer dans une voie sans issue. Romain, il me l'a bien dit, il veut à terme revenir complètement à la bio, mais il fait très attention à ne pas se casser la figure. Les gens maintenant veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Alors que, je ne sais pas, il y a 20 ans, ils s'en fichaient un petit peu. Hein.
Alors, ce sont des beaux personnages hein, quand même tous. Il faut quand même bien dire que la consommation, elle a bondi ces dernières années.
Les ventes ont effectivement augmenté de 10% l'an passé, mais on est très loin, hein, Denis, des objectifs du Grenelle de l'environnement. 6% des surfaces agricoles consacrées en bio dès 2012, 20% en 2020. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 3% de terres en bio.
Voilà, et puis on rappelle que nous sommes le premier pays quand même agricole en Europe. Ah, tenez, ce personnage, vous le connaissez.
Alors, du pognon pour tout le monde, plus de chômage et plus changer des trucs. J'ai bon, je peux l'avoir mon boulot dans 2 ans, dans 3 semaines, là. Ah, non, la momo, tu rends la pomme, hein, c'est pas des pommes pour manger, hein. C'est des pommes sérieuses, ça, c'est pour travailler.
Ben oui, donc manger les pommes, en fait, c'était pour ça qu'on avait sorti ce qui sent. Ben oui, parce que là, on est bien loin du bio. On va revenir sur ce procès, donc une première en France, qui jugeait 3 pomiculteurs, voilà, on y est, accusés de ne pas avoir respecté la réglementation sur l'épandage des pesticides.
C'était au tribunal correctionnel de Brive, et il examinait effectivement la plainte de riverains excédés de devoir se calfeutrer lorsque les agriculteurs pulvérisent des produits phytosanitaires sur leurs arbres.
Ça nous fait entre 25 et 30 passages quand même. Donc, alors, le tribunal a relaxé les pomiculteurs.
Au bénéfice du doute, et pour Jean-Charles Boquet de l'Union des industries de la protection des plantes, c'est aussi la reconnaissance qu'en fait la réglementation est totalement inapplicable.
Il faut reconnaître que le cas de ces 3 pomiculteurs était quand même un cas assez particulier, puisqu'ils étaient accusés en fait de ne pas avoir respecté un arrêté qui date de septembre 2006. Or, cet arrêté, en toute objectivité, il est extrêmement difficile de le respecter puisqu'il prend en compte un critère qui est la vitesse du vent. Et il interdit en particulier de traiter lorsque le vent est supérieur à 19 km/h. Or, c'est quelque chose qui est très difficile de respecter dans la nature, en particulier lorsque vous êtes dans un verger, parce que c'est une plante haute, le pommier. Et donc, il y a toujours de la brise ou du vent qui dépasse ces fameux 19 km/h. Et donc, je pense que le fait que ces arboriculteurs aient été relaxés, c'est quand même la reconnaissance de la difficulté de certaines réglementations. Il faut que les lois soient applicables, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient équilibrées, pragmatiques, pour prendre en compte les soucis des consommateurs, les soucis de l'environnement, mais aussi les facilités de l'agriculteur.
Voilà, donc vous respirez l'air pur de la Corrèze, mais vous évitez peut-être certains coins encore. Alors Nathalie, c'est parti pour l'expérimentation d'une nouvelle étiquette environnement sur les produits de grande consommation.
Oui, plusieurs modèles vont être analysés. Certains sont déjà totalement incompréhensibles, hein, je vous le dis tout de suite, mais l'expérimentation va justement faire le tri et prendre le meilleur de chacun. Je vous cite quand même une des informations que l'on peut trouver déjà sur une étiquette. 7,3E-16 pour l'épuisement des ressources.
Mais formidable, mais j'ai presque tout compris. Non, j'ai rien compris.
Qu'est-ce que c'est, justement, ça la future étiquette devrait être beaucoup plus simple. Alors, l'objectif, évidemment, c'est d'informer les consommateurs sur l'impact écologique du produit, la consommation énergétique, donc les émissions de gaz à effet de serre, la pression sur la diversité biologique et aussi sur la qualité de l'eau.
Alors, l'idée, c'est d'inciter les consommateurs à privilégier les produits les plus écolos.
Oui, écoutez Gaëlle Virlouvet de France Nature Environnement.
L'objectif, c'est que le consommateur puisse voter avec ses sous. Donc qu'il puisse choisir un produit qui est plus éco-responsable par rapport à d'autres produits moins éco-responsables et que du coup il fasse basculer le marché, à la fois la consommation et la production, vers plus d'environnement.
Est-ce qu'on a des exemples effectivement où l'étiquetage environnemental a réorienté un marché ?
Oui, alors typiquement sur l'étiquette classe énergie, sur les réfrigérateurs, on avait un étiquetage entre F, D, jusqu'à B, et aujourd'hui on est sur du A à plus. Pourquoi ? Parce qu'on a réorienté d'abord la consommation, puis ensuite la production, et on produit des réfrigérateurs qui sont de plus en plus écolos.
Alors on va dire une étiquette de plus, et peut-être, alors attention, des panneaux en moins pour l'environnement. Vous savez, ces merveilleux panneaux publicitaires qui nous polluent, qui dégueulassent vraiment les entrées de ville un peu partout. Où en sommes-nous ?
Eh bien là, c'est pas sûr du tout. Hein. Vous savez que le ministère de l'écologie a souhaité faire le ménage dans l'affichage publicitaire.
Ouais, avec une consultation publique sur Internet.
Oui. Plus de 7000 contributions doivent être dépouillées. Elles sont en cours de dépouillement d'ailleurs. Les résultats seront publiés mi-avril et on connaîtra les orientations du gouvernement à ce moment-là. Mais le projet de texte fait déjà l'unanimité contre lui. Alors pour les professionnels, il menacerait 90%, vous entendez bien,
oui.
90% du dispositif existant.
C'est le sens de la mesure.
Voilà. Et pour les anti-pubs, en fait, il entérine tout simplement le saccage des paysages. Et pour Nicolas Hervé du collectif des déboulonneurs, il y a bien quelques avancées, mais ça ne suffit pas.
Il y a notamment une notion qui n'existait pas auparavant, qui est la notion de densité. À savoir, il y a des prescriptions sur la taille des panneaux, mais il n'y en avait pas sur les densités. Maintenant, on va en mettre une. Il y a dans l'idée du ministère d'imposer un panneau tous les 80 mètres. Donc, de plus avoir des couloirs publicitaires, tels qu'ils les appellent, sauf que, dans sa rédaction actuelle, il y a de très nombreux dispositifs qui sont exclus de cette mesure de 80 mètres. Donc il faut la réécrire pour faire en sorte qu'on puisse vraiment ne plus avoir qu'un panneau tous les 80 mètres. Et puis, je vous invite à voir ce que c'est que 80 mètres quand on est sur une nationale en train de rouler à 50, 60, 70 à l'heure. C'est rien du tout. Donc 80 mètres, pour les entrées de ville, ça va permettre d'enlever quelques panneaux, mais ce n'est pas ça qui va fondamentalement, réellement changer le paysage. Réduire la taille des panneaux, c'est le seul point qui permettra de faire en sorte qu'on ait des avancées pour le paysage.
Voilà, je vous rassure, la France défigurée, ça, donc, ça va continuer manifestement. Ah, alors, on va s'intéresser maintenant à la bête noire des chasseurs et des agriculteurs, à savoir...
Le sanglier.
Oui. Alors, non, faut dire une petite chose, c'est comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on a mis des cochons, voyez.
Reconnu la différence.
C'est la même famille. Alors, la ministre de l'écologie a décidé d'ouvrir la chasse aux sangliers dès le 1er juin.
Oui, il y aurait plus d'un million de sangliers en France et ce serait le résultat d'une trop bonne gestion, figurez-vous.
Ça, oui.
Ils sont responsables de 17 000 collisions avec des véhicules chaque année et leur appétit pour les cultures coûte 20 millions d'euros par an. Ça commence à faire beaucoup pour le président de la Fédération des chasseurs, Bernard Baudin.
C'est le plus gros prélèvement, 500 000. Mais le sanglier a un taux d'accroissement qui est énorme. Il y a peut-être eu, à certains moments, une volonté de faire développer ces populations. Cela pose un problème aux fédérations, puisque vous le savez, depuis 1974, les dégâts sont remboursés. Avant, c'était par l'établissement public. Aujourd'hui, c'est par les fédérations. Et vous avez des fédérations qui, actuellement, sont à 2,5 millions d'indemnisation de dégâts aux agriculteurs. Nous avons des actions possibles, multiples, variées. Madame la ministre en a donné une, c'est ouvrir plus tôt, c'est-à-dire chasser plus, être très vigilant sur les problèmes d'agrainage, puisque à une certaine époque, pour faire développer les populations, on a agrainé, c'est-à-dire qu'on a nourri un petit peu, et donc on a fait développer le sanglier à 300% de taux d'accroissement. Donc ça se multiplie énormément. Et donc, il faut véritablement plus de chasse. Mais il est clair que c'est le chasseur qui paye. Vous savez que le montant, le coût de la chasse est quand même un petit peu élevé. Et chaque fois, ça augmente le coût de la chasse. Donc, ça freine l'arrivée de jeunes chasseurs, notamment, qui ne sont pas très fortunés.
Ça va être très sympa, la cohabitation, à partir du 1er juin, on va dire.
Oui, entre les touristes, les promeneurs, les chasseurs, ça va être sympa.
Alors, c'est toujours très, très curieux, les explications, parce qu'en fait, le monde de la chasse n'a jamais réussi jusqu'à présent à gérer les excès d'un côté, les sangliers. Et c'est vrai qu'à force de les multiplier, de ne pas tirer sur les femelles, etc., on y est arrivé. Et de ne jamais non plus arriver à gérer les espèces qui disparaissent complètement. C'est, voilà, c'est entre les deux, mais ces deux trucs-là, ça, ils ne savent pas faire jusqu'à présent. Alors, on entend de la mer, oui, parce qu'on a une nouvelle exposition au Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, ce lieu qui est merveilleux, donc qui est Nausicaa. Donc, on veut donner la parole aux petits états insulaires, Nathalie.
Oui, vous savez, ces cailloux semés sur les océans, menacés par la montée des eaux. Ils se sont rassemblés dans une coalition politique internationale, l'AOSIS, 43 états au total. Ces petits états-îles ont été les premiers, je vous le rappelle, à ratifier l'accord de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, on comprend pourquoi, puisqu'ils sont en première ligne.
Oui, ils vivent déjà les effets du changement climatique. Philippe Valette, le directeur de Nausicaa.
Les états insulaires, vous savez, sont souvent désignés comme étant des mendiants, finalement, puisqu'on voit bien dans les grandes conférences comme Copenhague ou Cancun, on dit, bon, on va bien dégager quelques dizaines de millions de dollars pour les états insulaires. En fait, c'est un investissement de la part des pays développés, car dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, on aura besoin des solutions qu'ils sont en train d'inventer pour lutter contre la montée des eaux, pour mieux gérer les ressources vivantes, pour avoir accès à l'eau, etc. Eux, ils sont en train d'inventer non pas ce dont ils vont avoir besoin demain, mais ce dont ils ont besoin tout de suite, immédiatement. La montée des eaux, vous savez très bien qu'à Tuvalu, par exemple, ou au Kiribati, eh bien, par grande marée, les gamins jouent au foot comme dans tous les endroits du monde, simplement, ils ont les pieds dans l'eau, les gamins. Donc ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour surélever, pour faire barrage, pour éventuellement flotter. Mais en tout cas, ce qui est très important pour eux, c'est évidemment de rester sur place. Parce que je me rappelle d'une réunion aux Nations Unies où les ambassadeurs des États insulaires disaient « Mais finalement, les pays développés, ils ont fait leurs calculs, ce sera beaucoup moins cher pour eux de nous délocaliser, puis de toute façon, on finira bien par mourir, que de nous aider à rester là où nous sommes. »
Donc, ce n'est pas très simple hein, comme avenir, en tout cas. Et c'est vrai que les cartes du monde sont en train de se redessiner, en fait, plus vite qu'on ne le pense actuellement, hein, Nathalie.
Oui, ça va très, très vite.
Donc, Nausicaa, c'est toujours un lieu formidable, hein, quoi qu'il arrive.
Ah oui, oh, c'est magique.
Hein. Alors, qu'est-ce que c'est bien. Donc, c'est à Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup, chère Nathalie Fontrelle. Et puis, on va retrouver d'ici quelques semaines.
À bientôt. Au
revoir, Nathalie. Bah oui, il n'y a pas de raison. On refera donc une actualité tout à fait régulièrement. J'ai entre les mains le guide du Marais Poitevin. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous connaissez le Marais Poitevin. Non, c'est le supplément, on va dire, détachable de la nouvelle formule de nos partenaires Terre Sauvage. Vivre la nature. Donc, bah, il change un peu de formule, donc, au mois d'avril, et c'est tout à fait intéressant. Alors, j'y reviendrai plus à fond, je dirais, la semaine prochaine. Mais donc, balade dans le Marais Poitevin. Vous avez un très beau sujet au Sri Lanka sur l'île où les éléphants sont rois, qui est signé Nicolas Pion. Nous aurons aussi, donc, les animaux sont-ils bêtes? Nous en parlerons avec un philosophe aussi. Donc ça, c'est dans le numéro donc, de Terre Sauvage, ce nouveau numéro avec de la proximité. C'est là où ils changent un petit peu, quoi. Ils se veulent encore plus proches, on va dire, du quotidien des uns et des autres. Terre Sauvage, donc, de ce mois d'avril. À vous de regarder, donc, à vous de juger. Que vous dire que ce week-end, vous avez les 22e rencontres cinéma-nature dans l'Allier. Je tiens à les saluer à Dompierre-sur-Bèbre, nature-environnement festival. Festival de films, ça fait des années qu'il travaille. Ce soir, du côté de Strasbourg, au Centre socioculturel de la Montagne Verte, boire et déboire du grand hamster d'Alsace. Je vous en reparlerai aussi d'ici 2-3 semaines. Et puis vous avez en Ardèche, et 8 et 9, vous n'avez pas que du gaz de schiste, non, bien sûr. Vous avez les rencontres du bio qui sont organisées par Didier Périol. Donc ceci se passe en Ardèche. Voilà, c'était notre mini agenda. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, Sandrine Laurent, Philippe Duclos à la Technique, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï, notre réalisatrice, Denis Chessou, nous vous souhaitons un excellent week-end.